Interview.
10 Wa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent N. Bonjour.
Bonjour.
Vincent N., tu es accompagnateur, guide de montagne ?
Ouais, on dit accompagnateur en moyenne montagne.
Moyenne montagne, ouais. Et tu œuvres au sein de Vercors Escapades. Et tu es ici pour nous parler d'un sujet qui te tient à cœur, c'est le froid et les techniques que tu as élaborées au travers du yoga, le yoga du froid comme tu dis. Alors avant de continuer, tu pourrais nous présenter rapidement ce qu'est le yoga du froid.
Alors le yoga du froid, en fait, c'est on pourrait aussi l'appeler plutôt le yoga du feu intérieur. C'est tout un ensemble de techniques de type yoga, hein, donc le yoga, c'est des exercices corporels où on met le corps en jeu et qui vont nous amener vers autre chose. Et là, en fait, on va jouer entre guillemets comme des enfants pourraient jouer avec des Playmobil ou autre. Nous, on va aller jouer avec le froid. Donc, on va aller se baigner dans une eau un peu froide. On va aller se promener en montagne en hiver sur nos raquettes, mais torse nu. Et on va en tirer plein de bienfaits, quoi.
Ça se passe au sein de Vercors Escapades. On peut présenter Vercors Escapades rapidement aussi, ce que représente cette association.
Ouais. Alors Vercors Escapades, c'est une association et c'est surtout une agence de voyage qui propose localement tout un ensemble de séjours avec des accompagnateurs en montagne qui vont vous amener essentiellement dans le Vercors, mais pas que. C'est une boîte qui a été montée par Fabrice Appert, qui est notre big boss là aujourd'hui. Et on est une dizaine d'accompagnateurs à peu près et à faire des séjours avec Vercors Escapades et puis à travailler aussi avec d'autres structures autour, quoi.
Alors, il y a une multitude d'activités au sein de Vercors Escapades, dont la tienne, qui traite du yoga, du froid. Comment t'es venu cet exercice dans ta vie ?
Alors, c'est une vieille histoire entre le froid et moi. Ça fait des années, des dizaines d'années que je fais de la montagne. Et j'aime bien l'hiver. Donc, parce que la montagne en hiver, c'est très particulier. Il y a un machin qui est blanc et qui est un petit peu bizarre, qui a plein de propriétés particulières, ça s'appelle la neige, et qui n'existe que justement en hiver parce qu'il y a du froid. Et c'est quand même assez magique, la neige. Donc, moi, j'ai toujours aimé la neige. Mais à côté de ça, je suis un peu craintif de plein de choses. Donc, j'ai essayé de gérer ces difficultés que l'hiver nous apporte aussi, parce qu'en hiver, des fois, il fait froid. Des fois, on gère pas trop bien ça. Donc, j'essaie de travailler sur ce froid, sur les sensations qu'on pouvait ressentir, sur qu'est-ce que ça nous apportait, quels étaient les dangers et tout ça. Et un jour, un peu par hasard, je suis tombé sur une émission d'un gars qui faisait des bains dans de l'eau froide. Donc, il casse la glace puis qui descend dans l'eau. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'étais assez impressionné de ça et qui avait l'air de faire des choses inimaginables, enfin impensables. On se dit, là, il fait froid, il y a tout le monde qui est avec une grosse doudoune autour, et lui, il est tout nu, il descend dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, j'ai gratté un petit peu. Donc, ce gars s'appelait Wilfried, enfin, s'appelle toujours Wilfried Delnor. Déjà, il avait un nom un peu prédestiné, Delnor. Et il se trouve que que Wilfried Delnor habitait pas très loin de chez moi, donc j'ai fini par le rencontrer. On a commencé à travailler un petit peu ensemble pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour arriver à aller se baigner dans de l'eau en hiver dehors. Et puis j'ai, de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer aussi un grand maître du froid qui s'appelle Maurice Daubard, qui a 91 ans aujourd'hui, et qui, depuis l'hiver 54, quand même, qui était un hiver assez célèbre pour son froid, se baigne. Il est dans l'Allier, dans le Massif Central, qui n'est pas forcément connu pour son climat doux. Et Maurice Daubard m'a initié, en fait, à ce qui s'appelle le Toumo, qui est un art qui nous vient du Tibet, et qui est fait par des moines tibétains dans une perspective tout à fait spirituelle. C'est-à-dire que les moines tibétains, ils sont dans leur monastère, et ils vont se mettre dehors, quasiment nus, donc ils sont à 5000 mètres d'altitude, et ils vont s'installer dehors en méditation avec des draps mouillés sur eux. Donc t'imagines, ils sont dehors en plein vent à 5000 mètres d'altitude, on est sur des températures négatives, on leur met un drap mouillé dessus et ils font sécher le drap. Juste avec la chaleur de leur corps, avec la ferveur de leur foi, et ben ils arrivent à faire ça. Puis quand le drap est sec, ben c'est pas la fin de l'exercice, hop, on en met un deuxième, puis un troisième. On essaye d'aller le plus loin possible quelque part dans sa foi. Et donc c'est cet art-là qui s'apparente à du yoga que Maurice Daubard m'a transmis et que j'essaye moi aujourd'hui de très modestement de pratiquer et de transmettre à mon tour quoi.
Cette quête sur le froid, c'est une mission dont tu t'es investi rapidement dans ton existence ou c'est au hasard des rencontres?
C'est un long cheminement, hein, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on déconstruit tout un ensemble de réflexes conditionnés, qui sont des réflexes sociaux, qui sont des réflexes très archaïques au fond de notre organisme, qui vont à l'encontre du froid. Le froid, dans la tête des gens, c'est égal danger. Tu dis froid, c'est égal à danger. Hein. Et donc, On a besoin de beaucoup de temps pour retrouver la confiance, déjà de comprendre que le froid ne nous veut pas de mal, puisque le froid, il s'en fout de nous. Il est complètement neutre à notre égard, alors que nous, on a peur de lui, mais lui, il ne nous veut pas de mal, et d'essayer de reprendre confiance dans notre organisme. La confiance dans le fait qu'on a une capacité interne à se chauffer qui est bien plus importante que ce qu'on croit. Et que en fait, dans la vie citadine de tous les jours, où on est avec notre thermostat à 22 degrés, été comme hiver, hein, c'est-à-dire qu'en hiver, on va chauffer à fond, en été, on va mettre la climatisation à fond, bah ça va en fait endormir notre organisme. Et le principe du Toumo, du yoga du froid, c'est d'aller retravailler sur ça, d'aller dire, bah non, notre organisme, il est capable de supporter une chaleur qui est au-dessus de 22 degrés. Et il est tout à fait capable de vivre à 15 degrés sans aucun souci. Je veux dire, quand on voit physiologiquement les peuples anciens, ils étaient exactement bâtis comme nous. Il n'y a pas de différence du tout. Et eux, ils étaient capables de vivre avec juste une petite peau de bête et de vivre dans la montagne par des températures bien plus froides que ce qu'on vit aujourd'hui.
Ce froid dont tu recherches instamment la présence, qu'est-ce qu'il t'apporte physiquement et mentalement?
Alors, physiquement, c'est quelque chose de vivifiant. Hein, et ça, on peut en faire l'expérience tous les jours. Quand on prend une bonne douche chaude le matin, c'est agréable. Quand on est sous la couette le matin au chaud, c'est très agréable, mais c'est pas très dynamique. On se prend une douche un peu froide, ou alors on sort dehors un peu torse nu et puis on s'expose à la fraîcheur. Alors en ce moment, il fait bien frais le matin. C'est dynamique, quoi. Ça nous réveille, ça nous sent vivant. Donc déjà, il y a ce côté-là. Ça, c'est pas la peine d'aller s'exposer pendant 10 minutes dans l'eau froide hein, pour s'en rendre compte. Et à côté de ça, il y a aussi tout un ensemble de petites choses, j'ose le mot, spirituelles, philosophiques, qui n'ont rien à voir avec le froid, d'une certaine manière. Hein, quand tu descends dans de l'eau qui est à 2 degrés, si tu y vas comme un guerrier, en disant « Ouais, moi je suis le plus fort, je vais me battre », L'eau, elle est plus costaud que toi. Ça se passe pas bien. Si tu descends en disant, ouais, il fait froid, mais je sais pourquoi je suis là. Parce que moi, j'ai envie d'aller expérimenter ça, j'ai envie de cette rencontre. Donc, tu y vas doucement. Et là, tu te rends compte que ça passe tout seul. Enfin, ça passe tout seul. Elle est froide, l'eau, mais ça passe. Et ce côté de ne pas être en conflit, de ne pas aller se battre contre plus fort que soi, ça s'applique dans tout au quotidien, dans n'importe quel contact, dans n'importe quelle relation avec les gens ou avec les événements. Et ça amène à quelque chose de philosophique qui est très proche des philosophies bouddhistes, de pas aller faire des choses qu'on n'arrive pas à faire, quoi. Tu sais, il y a un mot célèbre du Dalai Lama qui dit « Si le problème, il a une solution, c'est plus un problème. Et si le problème n'a pas de solution, c'est pas un problème non plus. »
L'abord du froid a été nécessaire en passant par le Tibet. C'est une des seules contrées où tu as pu trouver une signification de cette technique. Ou alors existe-t-il aussi dans d'autres pays ou d'autres contrées l'abord du froid comme un être vivifiant.
Alors, je dois bien avouer que moi, de ce côté-là, je suis jamais sorti de France. Enfin, j'étais en Italie un petit peu, parce qu'ils ont des beaux endroits bien exposés au froid. Mais cette origine tibétaine, je n'ai pas été la chercher sur place. C'est des choses qui me viennent d'Alexandra David-Neel, par exemple, qui est une grande exploratrice du Tibet et qui nous a apporté des témoignages très intéressants là-dessus. Et puis de Maurice Daubard qui a été donc au Tibet. Et le Tibet, c'est surtout en fait cette dimension spirituelle, pas que la dimension physique, physiologique, parce qu'après, il y a énormément de peuples qui vivent en contact avec le froid et qui s'en portent très très bien. Tu vois, il y a les Inuits, par exemple, c'est des gens qui vivent dans des conditions de température qui sont juste inimaginables pour nous, Européens, quoi. Et qui vont l'appréhender de façon beaucoup plus fine que nous, qui vont avoir une compréhension, une connaissance de la neige, du vent. Parce que nous, on dit du vent, bon, éventuellement, on a la bise, la bure, la tube, là-haut, sur les hauts plateaux. Allez, on a 4-5 mots pour désigner le vent, on a le mistral. Mais eux, ils vont avoir, 50 nuances, parce que c'est des choses avec lesquelles ils vivent. Donc on va avoir le vent, on va avoir l'eau. Et l'eau, la pluie, quand elle tombe, elle va être tous les jours différente. La neige, quand elle tombe, il n'y a pas une neige. Nous, ici, on a de la neige, on a de la grêle, mais on n'a pas de grosses différences. Eux, ils vont avoir 50 neiges différentes. Alors, ce n'est pas qu'ils ont des neiges différentes, c'est qu'ils ont un contact, une compréhension, finalement, de l'environnement qui est différent. Moi, je n'ai pas de connaissance de cette même approche spirituelle vers des peuples comme les Inuits ou autres. Mais j'imagine. Après, ils n'ont pas forcément la culture écrite qui va permettre une transmission à des milliers de kilomètres.
Oui, c'est une civilisation qui s'est établie avec le froid, en sorte, que ce soit vestimentaire, alimentaire, et au niveau des mœurs, pareil. Il me semble que les igloos, les températures à l'intérieur ne sont pas plus hautes que 0 degré, je crois.
Ah bah si la température monte au-dessus de 0 degré, en fait, ça va fondre, ça ne va pas être confortable.
Mais il y a cette prédisposition de ces populations à vivre avec le froid aussi.
Ouais, de prédisposition ou d'acclimatation. Alors l'acclimatation, elle se fait sur des générations, mais elle se fait assez vite. Moi, je suis toujours stupéfait de ce qu'en 2, 3, 4, 5 jours, on va être capable de gagner 2, 3 degrés sur le thermostat. C'est-à-dire que si on baisse le thermostat à la maison, alors on met une bûche un petit peu moins souvent dans le poêle, les premiers jours, y a un petit inconfort. Puis le deuxième jour, je m'en rends pas trop compte. Puis le troisième jour, ça va tout seul.
Le Tibet également, c'est un pays qui est en montagne, pour ainsi dire. Je ne connais pas l'altitude la plus basse du Tibet, mais ça doit vous avoisiner quand même dans les 3 ou 4 000 mètres, non ?
Je saurais même pas te dire, je suis vraiment très mauvais en géographie.
Oui, moi non plus, je pose la question, j'ai souvenir de ces cartes où on ne voit que du blanc de neige sur des montagnes. Alors, comment appliquer, ou du moins, comment décliner ces aspects du froid, ces civilisations, avec une activité au sein du Vercors, avec ce yoga du froid, et qu'est-ce que tu proposes précisément aux personnes qui viendraient à ces ateliers, ou ces, plutôt ces expéditions, ou comment peut-on dire ?
Alors, déjà, il y a deux choses. Il y a le... Moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'être accompagnateur en montagne, c'est-à-dire principalement d'amener des gens faire de la randonnée en montagne. Et été comme hiver, on est souvent avec des températures qui vont être soit chaudes, des fois, mais surtout froides. C'est-à-dire que même en été, il n'est pas rare qu'on ait du 4-5 degrés le soir ou la nuit sur les hauts plateaux. Donc déjà, le fait d'avoir une expérience, un contact avec le froid, par ces exercices qu'on fait quelque part dans la vallée, potentiellement, ça apporte un rapport qui est tout à fait différent. Ça veut dire que le froid, j'allais dire c'est mon ami. Non, c'est pas que c'est mon ami, c'est que c'est pas mon ennemi en tout cas. J'en ai pas peur, je m'en méfie, parce que le froid, moi je suis pas fait pour vivre physiologiquement dans un environnement à 0 degré. Mais... je sais qu'il ne me veut pas de mal, je connais un petit peu les limites du corps de ce qu'on peut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, ça amène à une confiance qui permet d'accompagner les gens dans un exercice qui est juste de faire de la randonnée dans un milieu où il y a de la neige, où il fait froid. Donc ça, c'est déjà super important. Et puis à côté de ça, je mets en place progressivement une activité où effectivement, on va aller se baigner, on va se faire des randonnées, ce que j'appelle des randonnées fraîcheurs. Alors, randonnée fraîcheur, c'est pas en été, c'est plutôt en hiver. On va se promener torse nu ou simplement en t-shirt. Et on va sentir les éléments. On va sentir les éléments, on va sentir le vent. Et puis tout d'un coup, paf, au détour d'un sentier, il y a un rayon de soleil qui arrive. Et à droite, tu sens le froid. Et à gauche, tu sens le rayon de soleil qui te réchauffe. Et ça, c'est génial, quoi. Tu te sens vivant. Tu es en communion avec la nature. C'est-à-dire que tu es là, tu es présent, quoi.
Ça s'adresse à quel type de public, ces randonnées au plateau ?
À tout le monde. Alors, à tout le monde qui est capable d'aller faire une randonnée, une marche. Après on adapte les choses, parce qu'on va rajouter un degré de difficulté, c'est-à-dire que quand il fait froid et qu'on est avec une doudoune, c'est plus facile que quand on va se mettre torse nu. Bah, au lieu d'aller faire 4 heures de randonnée parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on va faire peut-être une heure. Mais on va aller expérimenter des choses. Et on adapte beaucoup au ressenti de chacun. Et puis éventuellement, tiens, aujourd'hui, t'as pas trop la forme. Parce que t'as pas bien dormi cette nuit, parce que y a plein de raisons. Bah tiens, finalement, tu vas garder un petit pull. Tu vas pas te mettre torse nu. On va essayer d'équilibrer les choses pour que jamais... ça devienne dangereux, ça c'est sûr, mais même que ça ne devienne pas inconfortable. Alors on va essayer de pousser le confort, d'élargir notre zone de confort, mais jamais être inconfortable. On n'est pas dans des... Enfin, on parle souvent de stage commando, de stage survie. Ça, c'est vraiment pas notre truc. On ne se fait pas de mal. Il ne s'agit pas de se faire du mal. Il s'agit d'aller titiller un petit peu les limites de notre bien-être pour élargir cette zone-là, quoi. Donc c'est à peu près n'importe qui. Alors après, on va avoir des groupes de niveau qui vont se mettre en place assez naturellement pour que chacun puisse y trouver sa place. Mais voilà.
Cette notion du froid, comme tu disais au début de l'émission, fait peur un peu à la majorité des personnes. Cet atelier propose aussi d'aborder le froid comme un compagnon de route. Est-ce qu'on apprend aussi à pressentir le froid physiquement dans ces ateliers et de dominer un peu certaines craintes, peut-être infondées sur le froid, sur les méfaits du froid sur le corps, et ne pas pour autant tomber dans la peur du froid tout simplement?
Ouais, alors c'est sûr qu'on on est encore une fois dans notre environnement occidental, on est ancré dans le froid égale danger égale il faut pas. Enfin, et souvent les gens disent mais tu es fou quoi, tu vas faire des choses qui sont invraisemblables. Et donc la pratique du tummo va effectivement déconstruire cette espèce de peur archaïque, social, culturel, qui nous fait fuir le froid. Et en même temps, quand tu t'es plongé pendant 10 minutes dans une eau à 2 degrés, faut bien voir que c'est pas un exercice anodin. C'est-à-dire que la température corporelle, elle va descendre, elle est plus à 37 degrés. Alors moi, je n'ai jamais mesuré précisément, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin, hein, mais elle va descendre aux alentours de 35 degrés. Donc ça veut dire qu'on est dans un état qui s'approche, artificiellement, mais qui s'en approche, de l'hypothermie. C'est-à-dire que le principe, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on va aller titiller un petit peu cette zone-là. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sort d'un bain comme ça? Ben, on a un frisson thermique, c'est-à-dire qu'on tremble de partout. On a un tremblement, une contraction des muscles involontaire, incontrôlée, qui fait partie des bienfaits, parce que en fait, c'est comme si tu allais faire un footing, mais tu n'es pas obligé de te déplacer. Quoi. C'est pas mal, tu n'es même pas obligé d'avoir des chaussures. Et, sauf qu'à la sortie de ça, ben, on est très détendu, parce qu'en fait, tous les muscles se sont contractés, et tout, mais c'est pas rien. C'est-à-dire que si tu es pendant une demi-heure à être avec ce frisson qui te parcourt de partout, bah, tu te rends compte de ce que ça veut dire aussi, l'hypothermie. Et tu dis, oula, mais moi, j'ai pas envie de me retrouver perdu sur les hauts plateaux en début d'hypothermie, avec un tremblement comme ça, ou à la fin de ce tremblement-là, moi, je suis épuisé. Et s'il fallait encore construire son abri, monter sa tente ou marcher pendant des kilomètres pour atteindre un abri, bah, ça serait compliqué. C'est-à-dire que ça nous permet d'explorer de façon un petit peu artificielle un état physiologique qu'on pourrait trouver dans la nature en étant en randonnée, et dont on se dit, ouais, faut peut-être éviter d'y aller quand même. Hein, c'est un peu comme une exploration de choses, et puis on fait ça comme sur un stade. Moi, je fais souvent l'analogie, le yoga du froid, c'est un petit peu comme celui qui veut faire un marathon. Pour courir un marathon, t'as le choix. Soit tu cours 42,3 km, je ne sais plus combien ça fait exactement, puis tu cours comme ça, tu fais tous les jours 42 km. Ce n'est pas un très bon entraînement. Le bon entraînement, en fait, c'est d'aller sur un stade et de faire 400 mètres très très vite, beaucoup plus vite que ce que tu vas faire pour le marathon. Et après, le jour du marathon, en fait, ça passe vachement mieux. Ben, le yoga du froid, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une situation un peu extrême, un bain à 2 degrés, ce n'est pas tout à fait naturel, c'est un peu extrême. Mais ça va nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender ce que c'est, pour mieux éviter d'y tomber le jour venu dans la montagne en randonnée. Quoi.
Le froid aussi, donc compagnon de route. Comment vous prémunissez-vous contre l'atteinte du froid, par exemple aux membres inférieurs qui est en contact direct avec le sol?
Alors bah, ça, c'est là, on est en plein dans notre métier d'accompagnateur. Et ça dépend de plein de choses. Et en fait, très souvent, moi je dis, la règle numéro un, pour pas avoir froid, il faut pas avoir chaud. Quand on est en montagne, quand on va faire une randonnée, très souvent les gens, ils arrivent, ils ont 15 doudounes sur eux, le bonnet, l'écharpe, les gros gants, et puis on est à la montagne, donc ça monte. Et au bout de 100 mètres, ils sont tout rouges, ils sont tout dégoulinants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent des couches, au mieux, et après ils ont froid. Donc vraiment, le maître mot pour éviter d'avoir froid, pour se prémunir de cette sensation de froid, qui est quand même pas confortable tout le temps, c'est de ne pas avoir chaud. C'est-à-dire, c'est de réguler la température par rapport à un exercice physique. Donc il faut évidemment s'habiller, mais pas trop. Hein, on a toujours cette crainte de « oh là là, je vais avoir froid, je mets une doudoune, je mets tout ça, des écharpes ». Alors, on est en train de faire un exercice physique en randonnée. Cet exercice physique, il va dégager de la chaleur. Il faut que cette chaleur, elle puisse s'évacuer aussi. Sinon, on va être inconfortable, voire on va transpirer, et après, quand on va faire la pause du pique-nique, ça va être horrible, quoi. Donc l'ennemi, c'est plus l'humidité, souvent, que le froid en lui-même.
Dans les prochains temps, tu vas certainement proposer des randonnées. Hein. Comment appelles-tu précisément cet abord montagneux du froid? Tu as donné un nom générique à cette activité?
Alors
moi, je parle de randonnée, mais ça peut être autre chose.
C'est ce que j'appelle les randonnées fraîcheurs, où on va aller marcher dans la montagne. C'est des petites randonnées qui sont plutôt à la demi-journée, où au fil de cette randonnée, en fait, on marche un petit peu, on se réchauffe. Et puis, au bout de 5-10 minutes, on va se faire une pause, puis on va dire, tiens, allez, hop, on enlève des couches. Et puis, on se retrouve torse nu, à aller... Alors, torse nu ou en... en brassière, en maillot de bain, comme chacun veut, hein. et où on va aller ressentir un petit peu les éléments à ce moment-là. Ça, c'est des randos fraîcheurs. Et puis, on a l'exercice d'aller s'immerger dans l'eau. Donc, où là, on fait ça soit de façon très, très contrôlée, entre guillemets, ou très sécurisée. On fait ça dans un petit bassin à côté d'une maison chauffée. Donc, ça c'est facile, entre guillemets. Enfin, c'est confortable. Mais après, l'exercice ultime qui est vraiment formidable, c'est d'aller se baigner à côté d'une cascade, dans une rivière, dehors. Et quand il y a de la neige sur le bord, ça, c'est magique, quoi.
Alors, ces randonnées fraîcheurs sont au programme pour le prochain temps et à quel moment, par exemple ?
Alors là, je suis un petit peu embêté parce qu'en fait, on a une saison qui est un petit peu particulière. Ça, tout le monde l'aura remarqué. Non seulement on a beaucoup de neige, on a des températures qui sont plutôt fraîches, même si là, cette semaine, ça remonte un petit peu. Et surtout, il n'y a pas de remontée mécanique. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient l'habitude de partir au ski, que ça soit dans le Vercors ou que ça soit dans les Alpes en général, se retrouvent un petit peu empêchés de faire leur activité annuelle. Et du coup, il y a un report sur les raquettes qui est très important. Et on a du coup une activité en raquettes et en séjour raquettes qui est très importante. Du coup, je suis un peu mobilisé, je suis sur le pont avec Vercors Escapade pour faire ces séjours où il y a une très forte demande. Du coup, l'activité Toumo, elle est un petit peu mise entre parenthèses là, pendant les vacances scolaires et j'ai hâte qu'arrive, je crois que ça doit finir vers le 6 mars, hein, les vacances scolaires, où on va pouvoir reprendre un peu une activité toutes les semaines. Alors on fait ça le mardi, le matin ou l'après-midi, selon les semaines, soit des bains, soit des randonnées, quoi, pour aller tester ça, quoi.
Vous allez même parfois jusqu'au bivouac, passer la nuit.
Ouais. Ah oui. Alors là, pour le coup, j'essaie de pas mélanger en fait l'activité Toumo pure, où on se met quand même dans des situations qui physiquement sont exigeantes, qui vont être fatigantes parce que tout notre organisme travaille à ça. Et puis l'activité montagne, hein, parce que voilà, il faut, on reste dans des choses qui doivent être quand même sécurisées, qui doivent être faites en sécurité, quoi. Le bivouac, on va faire ça, effectivement, c'est magique. En plus, en ce moment, on a la chance, nous, ici, d'être à côté des hauts plateaux, qui sont cet immense réservoir de nature et d'espace, où il n'y a quasiment rien comme hébergement. Donc, il y a quelques cabanes qui sont là, qui sont des cabanes non gardées, qui, avec le Covid, ou la Covid, qu'est-ce qu'on dit, je ne sais pas, sont censées être fermées administrativement, donc, parce que c'est des lieux où, en fait, on va rassembler trop de gens, donc c'est embêtant. Et du coup, on amène, effectivement, les gens faire un bivouac, c'est-à-dire d'aller avec une tente. Alors, bivouac, c'est avec une tente, hein. On va pas aller trop loin non plus tout de suite, mais on va aller dormir dehors. Et finalement, les gens, ils disent, ouais, quand on est bien équipé, c'est pas si terrible que ça, hein. C'est-à-dire que quand on a le bon équipement, quand on sait les trucs à éviter, hein, ne pas trop s'habiller pour pas avoir chaud, pour pas transpirer, finalement, des températures comme on a pu avoir là, on a fait un petit stage de préparation au froid là, justement début janvier, on a eu du moins 20. Le matin, vers 9h, on a pris de la température, il faisait moins 20. Donc à 2h du matin, 3h du matin, je ne sais pas combien il faisait, et tous les stagiaires ont dormi dehors, bien, enfin bien. Après, quand on dort dehors, on ne dort jamais d'une traite, hein, mais ouais, ça se fait ça.
Un moment d'échange aussi avec les participants de ces randonnées fraîcheurs, vous en avez des retours, et est-ce qu'il y a un public qui se fidélise aussi à cet atelier ?
C'est moi, c'est ça qui me plaît en fait dans le métier d'accompagnateur ou dans cette transmission autour du froid, c'est justement le fait de faire découvrir aux gens quelque chose qui leur paraît juste impossible, quoi. Et souvent les gens disent non mais c'est pas possible, moi je vais pas faire ça, moi je suis frileux, j'ai peur du froid. Et au bout d'un jour ou deux, ils reviennent, ils disent mais finalement c'était pas si compliqué que ça. Tiens, c'est marrant parce que j'avais l'impression que ça serait difficile, que ça serait douloureux. Et c'est presque facile. Alors, c'est pas neutre, hein, mais on arrive facilement à amener des gens dans un état où jamais de la vie ils pensaient y aller. Et où peut-être ils n'y seraient pas allés tout seuls. Et ça, ça prend tout le sens de notre métier d'accompagnateur. C'est d'accompagner les gens vers un endroit où ils n'iraient pas tout seuls.
Il y a une préparation mentale aussi qui s'opère au sein des participants, certainement. Comment vous amenez il y a des entretiens où vous vous référez à certains textes ou à une certaine expérience avec des personnes telles que M. Daubard ou Mme David Neil.
C'est pour moi le maître mot de ce qui va m'aider à accompagner les gens, c'est le fait de les mettre en confiance. Alors les mettre en confiance avec moi, c'est-à-dire de dire fais-moi confiance, moi je vais t'amener dans un endroit et puis si jamais il y a un truc qui va pas, on t'en sortira en sécurité. Et d'être en confiance avec eux-mêmes. C'est-à-dire que progressivement, ils vont rentrer dans une autre relation avec leur corps, où ce corps dont ils avaient peur, finalement, ils disent « Ouais, mais moi je vais avoir froid aux doigts, moi j'ai toujours froid aux doigts, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. » Et puis, ah bah mince, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc de changer ce rapport de confiance, et la confiance, c'est un peu comme le renard et le petit prince, hein, c'est apprivoise-moi. Et ça prend du temps. Donc ça prend du temps, ça peut prendre du temps pour aller vraiment expérimenter des choses profondes, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Hein. Moi, mon rapport au froid, il n'est pas fini. Mais ça peut aller très vite aussi, c'est-à-dire que par quelques mots, par le ton de la voix qui est calme, qui est doux, ben on va amener assez rapidement des gens à s'immerger et à contrecarrer finalement cette espèce de peur-panique. Parce que quand tu mets le premier pied dans de l'eau à 2 degrés, en général, il y a le pied qui dit « non, mais ça va pas, non ». Et puis il y a le cerveau qui dit « non, mais vous êtes fou, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et tu as tout ton corps qui a envie de partir en courant. Et ton toi, ton être intérieur, il dit « Non, attendez les gars, moi je sais ce que je fais, j'ai confiance dans le gars qui est à côté de moi, là, qui me parle calmement, moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'effectivement d'aller sur les traces d'Alexandra David Neil, ou, encore une fois, de façon très très, très humble, hein, sur les traces de ces moines tibétains, j'ai envie d'aller faire l'expérience du froid, et j'y vais, calmement, pas en force, dans le calme. »
Cet aspect de randonnée fraîcheur, son aspect physique, âpre aussi, est-ce que c'est à la portée de n'importe qui et de pouvoir opérer seul? Ça, c'est déconseillé quand même.
Ah, bah après, le risque d'y aller tout seul, c'est d'avoir froid. En même temps, avoir froid, c'est pas très agréable, mais c'est pas très grave non plus. Hein. Au pire, on a un petit rhume à la sortie, c'est-à-dire qu'on va... On va avoir le nez qui coule, ça c'est une rhinite, c'est pas grave une rhinite. Hein. C'est pas en allant faire une randonnée fraîcheur qu'on va attraper un virus, par exemple. Justement, c'est plutôt sain. Après, on a des, j'allais dire, c'est même pas des contre-indications, c'est des vigilances à avoir sur. Il y a des gens, par exemple, qui ont ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud. Donc qui ont très souvent froid aux mains, et c'est des choses qui sont assez douloureuses. C'est essentiellement des femmes, au demeurant. Enfin, il y a une grande inégalité de ressenti entre les hommes et les femmes par rapport au froid, à cause des éléments hormonaux qui font que la masse graisseuse n'est pas la même chez les hommes et chez les femmes. Et donc c'est de la vigilance, plutôt. Il y a des gens, par exemple, qui ont des soucis cardiaques, on va être encore plus vigilant quand on va aller s'immerger dans l'eau, parce que ben, quand on rentre dans l'eau, il faut éviter ce choc, mais en même temps, on est quand même sur quelque chose qui est très prenant et qui va amener à une excitation intérieure, voilà, qu'il faut contrôler par rapport à des physiologies ou à des personnes qui sont avec des faiblesses peut-être du côté du cœur, mais sans réelle contre-indication, quoi. Ouais.
Il y a quand même des maladies qui sont proscrites pour cette activité.
Proscrites, non. Mais encore une fois, en général, quelqu'un... l'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait un pacemaker. Quelqu'un qui a un pacemaker, ça veut dire que, vraisemblablement, moi je suis pas médecin, je suis pas rentré dans l'intimité de sa pathologie, mais c'est qu'il a eu à un moment un problème avec son cœur. Et finalement, il a été appareillé pour contrecarrer ce problème-là. Donc pour moi, le problème, il est réglé. Et sauf que je me retrouve avec quelqu'un, le cœur, ça rigole pas quand même, donc c'est quelqu'un qui a pris au sérieux son problème, qui est consciente de ses difficultés, qui va pas aller faire des folies de son corps. Du coup, qui va être plus sensible, plus douce avec son organisme par rapport à quelqu'un qui dit « Non, mais c'est bon, moi j'ai 40 ans, je suis jeune, je suis sportif, je peux aller me battre avec le froid. » Et ça, cette personne-là, elle est plus en risque parce qu'elle va aller se heurter à quelque chose qui est beaucoup plus costaud qu'elle. Hein. Le froid, c'est plus costaud que nous. Hein. Alors que quelqu'un qui a des difficultés, qui est appareillé, qui n'est pas appareillé, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui... Ben, lui, il sait qu'il n'est pas toujours le gagnant. Donc du coup, il va y aller en douceur. Et c'est cette douceur-là qui va rendre les choses possibles.
On peut connaître les activités aussi de ce que tu proposes sur Internet pour découvrir les prochains programmes, peut-être.
Alors, au niveau communication, on est sur des... Là, en plus, cette saison est très particulière parce qu'on fait vraiment au fil de l'eau. Il y a 15 jours, on ne savait pas du tout comment allaient se passer les vacances, si on allait être reconfiné ou pas. Peut-être que d'ailleurs, on va être confiné ce soir, j'en sais rien. Donc, on fait les choses vraiment au jour le jour. Notre moyen de communication au niveau de Vercors Escapade, il est vraiment d'être le plus réactif possible. Et là, du coup, on a une page Facebook qui permet vraiment cette réactivité, par opposition à un gros site internet bien institutionnel. Donc le gros fil de communication, c'est la page Facebook de Vercors Escapade ou ma page pro à moi qui va relayer cette info pour lancer les choses de façon plus ponctuelle, quoi.
Ouais. L'impact du coronavirus sur les activités de Vercors Escapade vous ont amené à travailler comment, comme certaines associations, par exemple un théâtre qui va malgré tout continuer à programmer, à œuvrer, à travailler sur les prochaines diffusions ou représentations et qui au dernier moment apprennent que tout est annulé. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là aussi de préparatifs et au fur et à mesure que parfois les choses s'annulent, donc c'est sans cesse un recommencement. Est-ce que ça, au niveau du moral, ça vous permet de tenir le coup ou pas?
Alors, là, aujourd'hui, les choses, elles sont plus stabilisées. Mais si je reviens même au confinement là, de cet automne, on était vraiment dans... Alors, l'automne n'est pas la grosse période où on travaille, mais où, du coup, on a vraiment profité de ce moment où, quelque part, c'était assez inédit pour nous d'avoir un moment où, stop, plus personne n'est là, et où on peut se retrouver, et où on a pu travailler ensemble, d'aller faire des reconnaissances, d'aller finalement apprendre aussi à se connaître entre accompagnateurs, parce que souvent, en fait, on a chacun un groupe, et puis chacun part avec son groupe, et on se connaît peu sur le terrain. Donc ça a été l'occasion pour nous, parce que pendant ce confinement, on avait l'autorisation, nous, d'aller travailler, c'est-à-dire d'aller explorer notre territoire. Et on a fait beaucoup de reconnaissances ensemble. Ça, c'était vraiment une période de construction, mais presque plutôt de construction du collectif, qui était très, très, très chouette. Et puis, on a commencé à construire un peu des produits plutôt pour l'été. Donc l'été qui est encore loin, hein, maintenant. Et après, en janvier, on a vu la saison formidable qui s'annonçait en termes de neige. Enfin, c'était exceptionnel cette année. Enfin, exceptionnel. Ça devrait être la normale, mais ça n'était plus ces dernières années. Et on a travaillé, effectivement, à rendre possible tous les séjours, toutes les activités qu'on a pendant cette période de vacances scolaires. Là, aujourd'hui, on a une grosse, grosse, grosse contrainte, nous, qui est que sur l'espace public, on n'est pas censé être plus que 6. Ça veut dire que si on a un groupe de clients, on a 5 clients et puis on a un accompagnateur. Ça, c'est très limitant pour nous, économiquement, forcément. Et en même temps, c'est une opportunité phénoménale parce que, du coup, on est dans des petits groupes, on va pouvoir adapter vraiment à un petit groupe la demande, on va pouvoir être très très proche des gens, voire on peut être sur des groupes qui sont un petit peu plus grands. Du coup, en fait, on va mettre deux accompagnateurs, ce qui fait qu'on se retrouve avec deux groupes puis qui peuvent se rencontrer. Et là aussi, ça permet un autre travail. Donc moi, je trouve que c'est... je ne vais pas dire que le coronavirus, c'est une bonne chose, mais qu'en tout cas, c'est l'occasion de découvrir plein de nouvelles choses. Après, c'est vrai que c'est compliqué de continuer à garder la foi, de se battre pour construire des produits, puis que Ah, finalement, enfin là, quand il y a, voilà, il y a quoi, il y a 10 jours, quand on était en attente des annonces gouvernementales, s'ils nous avaient dit bon bah stop les vacances de février, tout le monde est à la maison, ça aurait été très très dur pour le moral, c'est sûr.
Vincent Haine, je te remercie d'être venu nous parler du Tummo, une pratique du yoga ou du froid au sein de Vercors Escapade, et je te souhaite une bonne soirée.
Merci à toi.
Au revoir.
Merci de ton invitation. À très bientôt.